Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'Infox. Un délire conspirationniste autour du sexe des premières dames se répand sur les réseaux sociaux. Brigitte Macron en est la cible, mais elle n'est pas la seule. On en parle avec l'auteur de l'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news. Emmanuelle Anison vient nous raconter son immersion dans le milieu de ceux qu'elle appelle les défiants. Sincères ou manipulateurs, ils prospèrent dans un monde de post-vérité. Des vents de sable qui traversent la Méditerranée, le phénomène est bien documenté, mais chaque nouvel épisode charrie son lot d'infox et alimente le complotisme, nous dira Olivier Four dans sa chronique. Enfin, c'est une première. Les fact-checkers d'Afrique francophone ont désormais leur plateforme, un rempart contre la désinformation. On fera le point avec leur porte-parole, Bourema Salouka, depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. Emmanuelle Anison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Nouvel Obs. Vous venez de publier l'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news. Aux éditions Studio Fact, racontez le réel précisément, c'est le nom de ces éditions. Alors, quelle est cette fake news qui mérite de faire carrément l'objet d'un livre ?
Alors, cette fake news, elle démarre en décembre 2021 dans une émission sur YouTube d'une chaîne complètement inconnue, d'une média. Et sur cette chaîne, dans une émission qui dure 4 heures, une femme qui s'appelle Natacha Ray dit qu'elle a enquêté pendant 3 ans et découvert que Brigitte Macron est un homme. Et cette émission, qui aurait dû rester dans les tréfonds d'Internet, en fait, est énormément relayée par des centaines de milliers de vues. Elle oblige la première dame, Brigitte Macron, donc, à réagir, à aller sur les plateaux télévision et radio pour dire non, je ne suis pas un homme. Et elle l'oblige aussi à porter plainte pour diffamation, et toute cette affaire est par ailleurs relayée aussi au niveau international, fait l'objet de dépêches et même d'émissions en télévision dans certains pays. Voilà, donc c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit quand même que cette histoire avait un côté assez exceptionnel par son ampleur, par le fait qu'elle touche le haut de l'État, enfin vraiment le sommet de l'État. Et puis ce qui était très intéressant, c'est qu'elle avait une personne incarnée. Souvent, les fake news démarrent, on ne sait trop d'où, de comptes un peu comme ça, non identifiés. Et là, il y avait cette femme, Natacha Ray, qui était à l'origine de l'histoire.
Voilà, et qui se présentait comme enquêtrice, mais qui n'est pas non plus, et elle le dit, je ne suis pas une journaliste professionnelle, et elle reproche aux journalistes de ne pas faire le travail qu'elle fait, elle. Simplement, ce qu'on voit, c'est toute une construction conspirationniste, une façon de fabriquer un récit et de faire rentrer les faits dedans au forceps, si j'ose dire, enfin de les falsifier même, pour arriver à argumenter cette construction.
C'est-à-dire que, en fait, Natacha Ray, c'est quelqu'un de sincère, hein. Mais évidemment, elle n'a pas de méthode journalistique. Elle se dit, Brigitte Macron, c'est un homme. Donc, cherchons les preuves. Donc, à ce moment-là, elle va regarder toutes les photos, chercher tous les points de détail qui pourraient prouver que, vous voyez, un bout de cheveux qui part avec le vent, c'est une perruque. Un mauvais pli sur une robe, c'est bien la preuve qu'il y a un sexe masculin dessous. Une photo mal légendée dans un journal, ça veut dire que le mariage de Brigitte Macron avec son premier mari, vous voyez, c'est pas elle sur la photo.
Elle va très loin puisqu'elle dénie l'existence du premier mari de Brigitte Macron.
Et voilà, et comme elle dit, ça, elle parle d'une théorie qui est de dire finalement Brigitte Macron, c'est son frère Jean-Michel et c'est en fait le père de ses enfants et non pas la mère de ses enfants. Il faut qu'elle trouve la mère des enfants de Brigitte, c'est qui ? Alors à ce moment-là, elle tape sur Internet des prénoms et elle trouve, c'est comme ça qu'elle trouve potentiellement, pense-t-elle, la vraie mère des enfants Ozière. Donc on voit bien que là, dans cette enquête, il y a des comportements assez irrationnels, enfin, et assez absurdes, en fait.
Et vous qui avez rencontré cette femme, qui est donc à l'origine l'émetteur premier de la fake news, comment elle réagit quand vous lui faites remarquer qu'elle procède un peu à l'envers ?
il y a toujours une réponse. C'est sans fin. C'est-à-dire que même quand au bout d'un moment, je dis, mais Natacha, regardez, Michelle Obama a été, entre guillemets, accusée, elle aussi, les transsexuels. La femme de Pedro Sanchez en Espagne l'a été. En Nouvelle-Zélande, ça a été aussi. Je dis que vous vous rendez bien compte qu'il y a quand même un problème, en fait, de défiance générale. Vous pensez avoir une histoire unique, dingue, en France. Et puis, en fait, non. Il y a un problème général d'histoire qui devient complètement folle. Quoi.
À propos des chefs d'État.
C'est ça. Et elle me dit, mais non, c'est bien la preuve qu'au contraire, il y a des trans à la tête de tous les sommets de l'État partout dans le monde. Et que donc, on a placé ces transsexuels-là et il faut se demander pourquoi. Et donc, vous voyez, en fait, à chaque fois, les arguments sont retournés. C'est très, très compliqué de pouvoir argumenter, en fait.
Et donc, c'est compliqué de pouvoir riposter. Et donc, la première dame a mis un certain temps à s'exprimer, mais on va l'entendre. Il y a 2 ans, elle était au micro d'RTL, Brigitte Macron.
Au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie.
Comment ça ?
C'est-à-dire qu'ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible.
Quand vous dites c'est qui sont ces gens ?
Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ça, ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible.
Pour remettre dans son contexte, quand elle dit « je n'y vais pas », c'est « je ne vais pas sur les réseaux sociaux ». Mais alors, Emmanuel Anison, que pensait de la riposte, de la communication officielle qui a été mise en place sur cette affaire ?
Alors, au départ, c'est ce qu'ils m'ont répondu au cabinet de Brigitte Macron. Quand il y a des rumeurs, il y en a plein, hein, aujourd'hui, on le sait, et des fake news, l'idée, c'est de ne pas répondre pour ne pas donner corps à ces rumeurs. Et donc, le cabinet de Brigitte Macron, de Emmanuel Macron, la stratégie est de dire on n'amplifie pas, donc on ne répond pas. Sauf que là, ils ont été interpellés par les journalistes. Cette histoire a pris trop d'ampleur. Ils ont été obligés de réagir. D'où cette réaction sur un plateau de télévision. Après, ce qui s'est passé, c'est que Brigitte Macron n'a pas voulu continuer de communiquer. Et notamment, elle n'a pas, on va dire, ouvert, puisque là, la question, c'est bah, vous êtes un homme, donc vous n'avez pas été enceinte, donc vous n'avez pas eu d'enfant. Donc, vous voyez, Michelle Obama, face à ces attaques, elle a ouvert son album familial. Il y a eu des documentaires sur sa vie, sa famille a réagi, son frère a raconté son enfance. Enfin, vous voyez, il y a eu tout ça.
Oui, là, mais alors on se trouve dans une posture obligée de dénier des choses qui n'existent pas.
Tout à fait, je ne dis pas du tout que c'est... Je comprends très bien qu'on n'ait pas envie d'exposer aux gens sa vie privée, d'autant que Brigitte Macron a une vie qui est plus compliquée que celle de Michelle Obama, puisqu'elle a eu un premier mari dont elle a divorcé pour rejoindre Emmanuel Macron, qui en plus à l'époque était mineur, donc c'est une histoire un peu compliquée, et donc elle n'a pas du tout, je pense, envie qu'on revienne sur cette affaire, sur cette histoire, sur tout... Et d'ailleurs, c'est ce que les biographes qui ont travaillé sur sa vie disent, hein. Enfin, clairement, c'est une période de sa vie dont elle n'a pas envie de parler. Et là, elle se trouve face à des gens qui lui demandent des comptes sur cette vie privée, sur cette vie d'avant.
Mais ce que vous expliquez malgré tout, c'est que de toute façon, quelles que soient les réponses apportées, les milieux conspirationnistes qui font circuler ça, intentionnellement ou sincèrement, comme le faisait cette enquêtrice, entre guillemets, Natacha Ray, de toute façon, ils ne seront jamais satisfaits des réponses. Un document officiel, pour eux, c'est un faux, forcément.
Alors, un document officiel, c'est un faux. Après, moi, je me pose quand même la question, mais c'est une question, encore une fois, toute réponse se respecte. Hein, mais le silence nourrit la suspicion, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand la famille ne parle pas, vous voyez, il n'y a pas d'ouverture sur toute cette période-là, ça nourrit la suspicion. Et moi, la question que je me pose, et que je pose quand même dans ce livre, c'est... Est-on aujourd'hui, à notre époque, est une ère de transparence forcée, hein, on a bien l'accord qu'on peut comprendre qu'on n'ait pas envie de participer à cette ère de transparence, mais on y est. Mais on y est. Et donc, est-ce que la solution du silence est la bonne ? Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas été celle de Michelle Obama. Et je ne sais pas si cette option de ne pas répondre est la bonne. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui qu'il y a quand même une légère évolution dans cette communication. puisqu'il y a aujourd'hui une réaction du chef de l'État lui-même.
Oui, et puis il y aura aussi, l'affaire va être portée en justice très
voilà.
prochainement.
Et alors, effectivement, l'avocat de Brigitte Macron a fait avancer la date du procès qui devait avoir lieu en mars 2025. Et comme là, il y a effectivement trop d'écho à cette affaire, ils ont réussi à faire avancer la date du procès en diffamation contre Natacha Ray, qui aura donc lieu le 19 juin 2024.
Donc ce qui va être poursuivi, c'est la diffamation.
Exactement, c'est la diffamation, et notamment sur le fait que Natacha Ray accuse Brigitte Macron d'avoir fait falsifier des documents d'état civil.
Et par ailleurs, on s'apercevra à l'occasion de ce procès, les plaintes elles viennent de deux personnes qui sont bien le frère de Brigitte Macron, qui est bien vivant, qui sera là en chair et en os, et Brigitte Macron elle-même. Et justement, il n'y a pas de fusion de personnalité comme la théorie conspirationniste le laisse penser.
C'est ça qui est en fait assez troublant, encore une fois, c'est-à-dire que Jean-Michel Trogneux existe. Je l'ai croisé, il habite à Amiens, c'est le frère de Brigitte Macron. Cet homme existe. Mais justement, c'est là où les arguments sont sans fin, c'est-à-dire que Jean-Michel Trogneux physiquement existe, mais Natacha Ray disait « Mais non, mais en fait, ce n'est pas Jean-Michel Trogneux, c'est un faux Jean-Michel Trogneux, c'est un leurre, c'est quelqu'un qui a été placé là pour jouer le rôle de frère de Brigitte Macron. » C'est là où on arrive à quelque chose d'absurde. Et c'est là aussi où il y a une complexité, c'est que ça, c'était la thèse de Natacha Ray. Mais il y a des brigittologues, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, travaillent sur cette affaire. C'est complètement dingue. C'est ce que j'appelle des brigittologues. Et eux ont d'autres thèses encore. Donc,
oui,
en plus,
c'est ça.
Et
ce sont des thèses qui
se contredisent. Voilà. Un peu comme quand on a des experts qui ne sont pas d'accord. Voilà. Et c'est vrai que chaque thèse est plus folle que l'autre et pousse l'autre dans les orties.
Donc, au-delà de ce premier récit par Natacha Ray, on a quand même une officine qui est quand même beaucoup plus solide, entre guillemets, parce qu'elle est déjà bien implantée. C'est cette pseudo-lettre confidentielle qui s'intitule « Faits et documents », bien mal nommée, puisqu'en fait, elle utilise souvent des choses falsifiées, et qui est donc tenue par Xavier Poussard, et qui, lui, a une thèse encore plus poussée que celle de Natacha Ray. Jusqu'où va-t-il ?
Parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, sincères, comme Natacha Ray, des citoyens qui se sont mis à chercher chacun de leur côté. Ils ont créé des groupes Telegram, voilà. Et puis, cette affaire a été relayée par des officines beaucoup plus construites et politiquement déterminées. Faits et documents, c'est effectivement une lettre confidentielle qui est dirigée par Xavier Poussard et qui est une lettre classée à l'extrême droite et qui clairement a un but de déstabilisation politique. Il le dit. Donc lui, il a repris cette
affaire. Mais Natacha Ray aussi avait dans l'idée de déstabiliser, de faire tomber Macron, elle le dit, faire tomber Macron en s'en prenant à sa femme.
Oui, mais elle, c'est parce qu'elle pense qu'elle détient un scandale d'État. Elle pense que les politiques mentent au peuple, que là, elle a un énorme mensonge sous les yeux et qu'elle va rétablir une vérité.
Elle y croit et vous pensez, et Faits et documents, c'est autre chose.
Faits et documents, en tout cas, voilà, lui, c'est une publication qui est très, très positionnée dans l'échiquier politique, à l'extrême droite, et qui, clairement, cherche à déstabiliser le pouvoir. Il le dit, il l'a écrit, il me l'a dit, enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. On est vraiment sur quelque chose, que ce soit à travers cette rumeur ou à travers d'autres sujets. Et il est d'ailleurs, il a d'ailleurs essayé d'exporter cette rumeur. Il a fait traduire Faits et documents en anglais pour l'envoyer à l'entourage de Donald Trump, ce qui a d'ailleurs été efficace.
Oui, ça a eu un certain succès. On a eu une influenceuse suivie par des millions d'auditeurs, d'internautes, qui s'est mise à crier au scandale et à répliquer cette théorie conspirationniste. Mais pourquoi vous n'utilisez pas le terme complotiste, par exemple ?
Parce qu'en fait, j'ai préféré utiliser le terme défiant parce que dans ce livre, je souhaitais ne pas avoir un regard surplombant et qui juge. Et on sait très bien que si on dit complotiste, on stigmatise. Et d'ailleurs, à raison, hein, parce que mais on stigmatise et voilà. Et moi, je trouvais que je trouve toujours, ce qui réunit finalement tous ces gens, c'est la défiance. La défiance vis-à-vis des élites politiques, médiatiques, institutionnelles. Il y a cette défiance. Mais il y a beaucoup de nuances dans cette défiance. On l'a vu au moment de la crise du Covid. Entre ceux qui disaient le vaccin et qui ont basculé en disant le vaccin, il a été créé pour servir les intérêts pharmaceutiques. Et ceux qui disent ce vaccin, il a été créé pour tuer la population mondiale. On voit bien qu'il y a quand même voilà, des
une
nuances.
Une gradation.
Voilà. Et il me semblait qu'en disant les défiants, j'incluais un nombre plus divers de personnes, plus nuancées, et avec un regard qui n'était pas un regard surplombant. Et c'était important pour moi, puisque l'idée était de m'immerger et de les raconter à hauteur humaine, avec toutes leurs différences, parce que quand on creuse, tous les gens que j'ai rencontrés, ce sont des gens très différents. Ce ne sont pas des gens idiots.
Pas forcément des illettrés.
Natacha Rey ne l'est pas. Les gens qui l'aident non plus. Il y a même quelqu'un qui avait voté aussi Emmanuel Macron en 2017. Son ex-compagnon était quelqu'un de gauche. Donc on est loin des caricatures juste du complotiste d'extrême droite. Et ce sont des humains, des gens comme vous et moi. Et d'ailleurs, vous avez pu noter au moment de la crise sanitaire que cette défiance gagnait nos entourages. On a bien vu dans nos familles, dans nos amis, les degrés de défiance qui se sont immiscés à travers cette crise sanitaire. Et d'ailleurs, nombre d'interlocuteurs dans ce livre ont vrillé au moment du Covid.
Mais par contre, quand on parle de quelque chose comme faits et documents, on sait qu'il y a toute une construction derrière. On se réfère à des notions, on parle de satanisme, on parle de la finance mondiale, on met tout ça, on fait un gros amalgame de tout ça. Il y a tout un programme derrière.
Oui, il y a toutes les références liées à l'extrême droite, avec l'idée de complot, d'organisation internationale bien marquée, d'État profond qui serait parallèle aux États officiels et qui en fait tirerait les ficelles de groupes financiers internationaux. On connaît tout ça. Et bien sûr qu'il y a tout ça derrière. Et ça n'est pas anodin que Xavier Poussard ait fait des documents et cherché des appuis du côté de Donald Trump.
Oui, parce qu'il y a aussi toute cette mouvance QAnon qui aussi fait ses choux gras de la pédocriminalité, et donc il y a une espèce d'intrication de toutes ces thèses.
Alors, le mouvement QAnon qui est né autour de Donald Trump, aujourd'hui, ce sont des thèses qui ont essaimé partout. Faut quand même, je le rappelle dans le livre, mais il y a quand même une émission de Touche pas à mon poste où on a entendu dire que les élites buvaient le sang des enfants, ce qui est une thèse QAnon, hein, avec de l'adénochrome. Donc, c'est une émission grand public. Alors, l'émission a été sanctionnée, mais néanmoins, elle est passée. Elle a été vue par des millions de personnes. Donc, ces thèses aujourd'hui infiltre la société. Après, ce que j'essaie de montrer aussi dans le livre, c'est que si on en arrive là encore à des croyances aussi folles, c'est peut-être, et je pense que pour les contrer en fait, pour essayer parce qu'on fait quoi en fait face à tout ça? Je pense qu'il y a eu un terreau quand même. Il y a quelque chose qui nourrit cette défiance. Et ce qui nourrit cette défiance...
Une exaspération à l'égard des élites en général.
Exactement, avec des scandales sanitaires qu'on connaît tous, qui ont clairement eu lieu, de médicaments qui ont été laissés sur le marché alors qu'ils étaient mauvais, des scandales sexuels aussi. Même les affaires MeToo aujourd'hui qui révèlent que certains puissants ont été protégés dans un entre-soi, etc. Tout ça nourrit cette défiance.
Oui, donc mais moi, en démocratie, justement, tout ça aussi fait l'objet d'enquêtes journalistique, puisqu'on a le droit d'enquêter dans les démocraties,
sûr,
ce qui n'est pas le cas.
Ça n'a pas été le cas pendant trop longtemps, sans doute, et la justice n'a pas fait assez de son travail, sans doute non plus. Et il y a, je pense, vraiment une question d'exemplarité et de transparence si elles étaient plus fortes, nourriraient moins tout ce terreau complotiste qui, aujourd'hui, il faut quand même qu'on se pose la question de savoir pourquoi, explose.
C'est un peu amplifié par la désinformation russe aussi qui vient derrière et qui est en train de relayer cette thèse de la première dame française étant un homme, etc.
On voit bien comment ces histoires peuvent servir des intérêts étrangers et comment, grâce à Internet et aux fermatrolls, comme on les appelle, russes, notamment, ces affaires sont utilisées. Mais de la même façon que cette influenceuse américaine qui est suivie par 4 ou 5 millions de followers, qui a quand même consacré, je crois, deux émissions de plus de 20 ou 30 minutes chacune sur juste l'affaire Brigitte Trogneux, on voit bien que ça sert aussi des intérêts géopolitiques qui dépassent très très largement notre petite affaire française.
Merci beaucoup Emmanuel Anison. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de l'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news, aux éditions Studio Fact. les tempêtes de sable du Sahara qui traversent la mer Méditerranée et parviennent jusqu'en Europe. Le phénomène a de quoi impressionner et tout aussi naturellement, il déclenche sur les réseaux sociaux une nuée d'infox. On appelle cela le brouillard informationnel. Bonjour Olivier Four.
Bonjour Sophie Malibaud.
Une partie de l'Europe va donc être de nouveau confrontée ce week-end au passage d'un nuage de poussière venant du Sahara. Il devrait se répandre dans le sud de l'Espagne puis en France. Certains y voient un phénomène créé par l'homme avec des produits chimiques. Bref, un complot destiné à empoisonner les populations. Des thèses évidemment battues en brèche par les scientifiques.
Oui Sophie, en Afrique saharienne, au Sahel et au Maghreb, les tempêtes de poussière sont bien connues des populations. Mais quand le sable du Sahara arrive en Europe ou en Amérique, eh bien effectivement, les thèses farfelues refont surface sur les réseaux sociaux. Lors du passage sur l'Europe d'un premier nuage, c'était fin mars, on a pu lire sur X, anciennement Twitter, des commentaires venant de ce qu'on appelle la famille complotiste des adeptes de la théorie des chemtrails, selon laquelle des nuages toxiques sont fabriqués par le gouvernement américain. Alors bien sûr, il s'agit de fausses informations. Ces tempêtes de sable sont des phénomènes naturels, comme nous l'explique Vincent Guidard, chercheur à Météo France.
Alors comment ça se produit? Tout commence sur les espaces de désert. Donc là, en l'occurrence, ça serait le désert du Sahara. Quand les conditions météo sont réunies, avec le vent, le sable peut être soulevé et puis retombe sur le sol, se fracture en plus petits morceaux qui peuvent être ensuite soulevés par le flux assez haut dans l'atmosphère jusqu'à 3, 5, voire 7 km d'altitude. Et quand il se retrouve à cette altitude-là, il peut être transporté soit à travers l'Atlantique, soit vers l'Europe en fonction de la situation météo. Alors, on est dans la saison où ces épisodes de poussière désertique peuvent arriver sur l'Europe, Europe de l'Ouest, Europe centrale. Un peu plus tard dans l'année, ces épisodes vont plutôt avoir tendance à être transportés au-dessus de l'Atlantique. Donc c'est des choses qui arrivent régulièrement tous les ans. Pas toujours avec le même nombre d'épisodes, pas toujours avec la même intensité.
Voilà donc, mais ces explications souvent ne suffisent pas à convaincre les milieux complotistes.
Oui, Olivier, certains assurent que ces nuages contiennent des composés chimiques dangereux. Qu'en est-il exactement?
Voilà, alors ça, c'est ce qu'on retrouve dans un long article qui refait surface régulièrement. Un article datant de 2022 sur le site internet tchèque Aeronet, qui n'est autre qu'un vecteur de la propagande russe, considéré depuis longtemps par les autorités de Prague comme un site de désinformation. L'article était de retour sur les réseaux le 2 avril et il a été vu 300 000 fois sur un seul compte X. Il est calqué mot pour mot sur la théorie complotiste des chemtrails, assurant même que du nickel, du barium, de l'aluminium et d'autres métaux sont retrouvés dans des proportions alarmantes dans les nuages, empêchant la lumière de passer et fragilisant les êtres vivants sur Terre. En France, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, qui analyse scientifiquement la composition de ces nuages de poussière, n'évoque pour sa part que des traces de substances présentes à l'état naturel. Écoutez, Olivier Favez, il est chercheur à l'INERIS.
C'est vrai qu'on va, retrouver ce type de substances en concentration trace, mais ce sont des substances naturelles. Donc les poussières sahariennes provenant de l'érosion des roches, on va retrouver la même chose que ce qu'il y avait dans la roche initiale. Donc si la roche initiale était par exemple un granit, comme on peut retrouver en Bretagne, hein, avec un sol radioactif naturel, on va aussi retrouver ces éléments dans ces petites particules. Mais ce sont des éléments qui ont une origine naturelle. Cette couleur rouge vient essentiellement des oxydes de fer qui absorbe la lumière à une certaine longueur d'onde et ça lui donne cette couleur. Les particules dont on parle, les particules fines, on parle de PM10 ou PM2.5, donc c'est les particules qui ont un diamètre inférieur à 10 micromètres ou à 2,5 micromètres. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Après, la réglementation sur la surveillance de la qualité de l'air, elle n'est pas là par hasard. Il y a quand même des effets sanitaires avérés des polluants atmosphériques et notamment des polluants particulaires, en particulier pour les personnes les plus fragiles.
Voilà donc ce qu'en disent les scientifiques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on se trouve donc face à des cas d'infox basés sur la déformation de données scientifiques et la production d'analyses trompeuses afin de susciter la peur et d'alimenter des théories conspirationnistes.
Merci Olivier Four. Votre chronique est à retrouver plus en détail sur le site RFI.fr. C'est bien de vérifier les faits, de débusquer la désinformation. C'est encore mieux quand ce travail trouve son public. D'où le lancement cette semaine de la plateforme africaine des fact-checkers francophones, paff.africa sur Internet. On rejoint à présent Bourema Salouka. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Alors vous êtes journaliste, fact-checker, fondateur de Face au Tchèque. Avec vous aujourd'hui, on va parler du lancement officiel d'une nouvelle plateforme africaine des fact-checkers francophones. Vous en êtes le porte-parole. Dites-nous en quoi ça consiste.
Bien, la plateforme africaine des fact-checkers francophones consiste à mettre en réseau une dizaine d'organisations de fact-checking des pays africains en vue de contribuer au développement de la pratique du fact-checking, mais aussi de renforcer les capacités de ces organisations à faire face à la déferlante désinformationnelle, tant locale que venue de l'étranger qui traverse aujourd'hui le continent.
Très concrètement, déjà, c'est un site internet, c'est ça?
Oui, c'est un site qui vise à rassembler et à donner plus de visibilité à la production de ces différentes organisations. Mais la plateforme n'a pas seulement qu'un site internet, elle vise aussi à former davantage ces organisations à maîtriser le fact-checking, à comprendre aujourd'hui ces campagnes de désinformation orchestrées depuis l'étranger, mais aussi à pouvoir travailler sur la recherche sur la désinformation et faire de l'éducation aux médias et à l'information auprès des citoyens.
Parce que pour l'instant, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, tous ces pays ont des cellules de fact-checkers, ont des blogueurs qui s'occupent exclusivement de fact-checking, mais il y a un problème de visibilité de votre travail?
Il y a un problème de visibilité de ces organisations de fact-checkers dans ces différents pays, excepté Africa Check qui a une grande visibilité, les autres organisations comme Faso Check, Togo Check, des autres pays n'ont pas encore atteint une certaine viralité. Mais l'ambition seulement n'est pas que de faire de la visibilité, c'est d'œuvrer à ce qu'il y ait une standardisation de la qualité en matière de fact-checking afin de permettre à toutes ces organisations de monter de gamme et de pouvoir avoir une certification au niveau de l'International Fact-Checking Network, qui est la grande organisation mondiale des fact-checkers qui décerne ces reconnaissances-là à des organisations qui travaillent sur des principes de transparence, de neutralité, d'indépendance et surtout sur une production qui est ancrée sur la factualité avec des preuves ouvertes.
Bourema Salouka, comment est-ce qu'aujourd'hui l'internaute lambda trouve cette plateforme africaine?
C'est très simple pour les internets qui voudraient bien visiter cette plateforme. C'est paff.africa tout simplement et vous accédez à notre plateforme. Et bien sûr aussi, vous pourrez nous trouver sur nos comptes sur les réseaux sociaux Facebook et X.
Merci beaucoup Bourema Salouka et bon vent à cette plateforme africaine des fact-checkers francophones. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Pauline Berthélémy et Lorraine Nemoza à la réalisation de cette émission. Pour les références et autres vérifications, vous pouvez nous retrouver en tapant InfoVérif RFI dans une barre de recherche. Sinon, on se retrouve ici même la semaine prochaine.
Et il sera